C'est parti pour une nouvelle série de messages ce matin. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On va démarrer une nouvelle série de messages qui s'intitule « Suivre Jésus ». On démarre cette année 2019. Quoi de mieux qu'ensemble creuser et parcourir ensemble la parole de Dieu et ensemble découvrir comment nous mettre de plus en plus en route afin de suivre Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Suivre Jésus, on va le découvrir ensemble dans les semaines et les mois qui viennent. Et ce matin, le titre de mon message est celui-ci, ensemble à sa suite. Ensemble à sa suite. Ça va, vous êtes avec moi? C'est parti. Alors que Jésus, accrochez votre ceinture, on va décoller dans quelques instants, alors que Jésus n'était plus avec ses disciples, il était mort, il était ressuscité et il était monté auprès de son Père pour nous préparer une place. Il y a eu, à ce moment-là, il y a eu comme un déclic dans le cœur des chrétiens de l'époque. C'est comme un déclic qui s'est passé dans les chrétiens de l'époque, l'importance tout à coup de s'unir, l'importance tout à coup de se tenir ensemble, l'importance tout à coup de s'assembler, de se retrouver, de partager, d'avoir une communion fraternelle les uns avec les autres, de s'entraider, de se soutenir, de se soucier les uns des autres, de prier les uns pour les autres, de se tourner les uns vers les autres. Toutes ces choses, elles se sont mises en place après le départ de Jésus et ça a donné une puissance énorme, une puissance incroyable au milieu de leur faiblesse. Vous êtes avec moi? Ça leur a donné une puissance incroyable au milieu de leur faiblesse, une nouvelle dimension indispensable aux chrétiens de cette première église naissante. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble ce matin. Vous êtes avec moi? Ça va. Pour ceux qui n'ont pas répondu, je vais y aller quand même. La persécution a commencé et savez-vous ce qui s'est passé? Quelle a été la réponse instinctive et spirituelle du peuple de Dieu? Les chrétiens se sont unis toujours plus. Tiens, c'est paradoxal. C'est parce qu'il y a une œuvre spirituelle. Les chrétiens ont choisi, dans ces moments-là, instinctivement, mais spirituellement aussi, de se tenir ensemble, de s'unir. Les dirigeants romains, ou même les juifs religieux de l'époque, persécutaient les chrétiens et pensaient qu'en les persécutant, en les opprimant, en les maltraitant, en les mettant à mort, ils stopperaient le mouvement du Saint-Esprit qui avait commencé à prendre place. C'est ce que Saul de Tarse, plus tard, l'apôtre Paul, qui avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, pensait lui aussi qu'en persécutant les chrétiens, en les arrêtant, les stoppant, les maltraitant, les jetant en prison, ça allait arrêter ce mouvement du Saint-Esprit. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Plus ils vivaient des difficultés, plus ils vivaient des épreuves, plus la tempête faisait rage, plus il y avait des persécutions, plus ils se tenaient ensemble, ils s'unissaient, ils se soutenaient, ils s'entraidaient, solidaires les uns des autres. Et ça a été comme ça depuis la mort de Jésus, et ça a été en s'intensifiant jusqu'en 313. Un peu d'histoire? Jusqu'en 313, sous l'empereur Constantin. L'empereur Constantin qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est converti et qui a amené le christianisme au milieu de l'Empire romain à ce moment-là. Tout s'est retourné. Mais imaginez-vous, la persécution n'a pas tardé à s'étendre juste après la mort de Jésus et durant trois siècles. Durant trois siècles, les chrétiens ont été persécutés de toutes sortes de manières. On réprimait les disciples de Jésus et l'Empire romain était particulièrement expert en matière de répression, en matière de torture sous l'empereur Néron et particulièrement au début du IIIe siècle, 302, comme ça, sous l'empereur Dioclétien. Des tortures terribles. Et si on se penche un peu sur l'histoire ce matin, on constate que les Romains utilisaient toutes sortes de méthodes follement cruelles pour mettre à mort les chrétiens, pour les torturer, pour leur faire du mal, pour tenter d'arrêter ce mouvement du Saint-Esprit qui avait pris place. Alors on va faire un peu d'histoire ensemble en ce début de message ce matin pour comprendre mieux ce qui se passait à l'époque. Écoutez bien ceci. Selon les historiens, pendant les 3 siècles que durèrent les persécutions, on employa contre les chrétiens pour les faire apostasier, pour leur faire renoncer à leur foi. Les tourments les plus cruels, les supplices les plus affreux, les chevalets et les poulies pour disloquer les membres. « Ah, pasteur Mathieu, tu ne vas pas commencer, c'est un film d'horreur. » Oui, sauf que ce n'était pas du cinéma, c'est la réalité. Des dents de fer pour les déchirer, des grilles et le feu pour les consumer, ou bien encore de l'huile bouillante et du plomb fondu qu'on leur versait dessus. Les uns étaient livrés aux bêtes féroces, aux fauves, d'autres écorchés vivants. Et à certains, on arrachait les yeux, les dents, les cheveux, les ongles. D'autres étaient empalés avec des broches de fer. D'autres encore étaient pilés dans un mortier. On employa contre les victimes tout ce que peuvent inventer la cruauté et la barbarie. Malgré ces supplices atroces, dont le récit seul fait frémir, des milliers et des milliers de chrétiens volaient tous les jours au devant de la mort plutôt que de renier leur salut, leur foi et Jésus-Christ. On vit des enfants dans l'âge le plus tendre, de faibles jeunes filles, des patriciens et des esclaves rivaliser d'héroïsme pour confesser Jésus-Christ. Waouh ! Un peu d'histoire ce matin, ça réveille. Mais on n'est pas à Hollywood. C'était de la vérité de ce qui se passait. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un fait d'histoire particulier. En l'an 177, c'était il y a longtemps, vous vous rappelez ? En France, dans la ville de Lyon, Luc de Nome à l'époque, c'était déjà une ville imposante et c'est là, à Lyon, qu'a été construit l'un des plus importants amphithéâtres de la Gaule. Et toutes les années, chaque année, au début du mois d'août, imaginez-vous quelques instants, mettez-vous dans l'ambiance. Au début du mois d'août, à chaque année, une fois par année, des délégations venaient de toute la Gaule à Lyon, à Luc de Nome, là dans cet amphithéâtre, pour la grande fête de l'Empire romain. Et cette année-là, en 177, le supplice d'un certain nombre de chrétiens faisait partie du spectacle. Et on peut montrer la prochaine image, Jean-Étienne. Une lettre des chrétiens de Lyon à des chrétiens d'Asie mineure nous permet de comprendre comment à ce moment-là, en ce mois d'août 177, comment et pourquoi des chrétiens sont morts martyrs à Lyon. Et j'aimerais vous lire une portion de cette lettre des chrétiens de Lyon qui écrivaient à des chrétiens d'Asie mineure pour leur expliquer ce qui était en train de prendre place et ce qui s'est passé à ce moment-là dans cet amphithéâtre en 177. Écoutez ceci, c'est la lettre qu'ils ont écrite. « Il s'est produit chez nous une grande persécution. Les païens se sont déchaînés contre nous. On nous a chassés des bains publics. On a commencé à nous chasser des maisons et des marchés. On nous interdisait pratiquement de paraître en public. La foule réussit à capturer un bon groupe de chrétiens. Heureusement, c'était les plus solides d'entre nous. Et ils allèrent courageusement à la rencontre du Christ. » Insultés, frappés, traités, tellement maltraités et traînés à terre, ils furent conduits au forum. Là, on l'a vu. Les chefs de la ville les ont interrogés. Ils confessèrent leur foi en Jésus-Christ. Alors, on les a mis en prison en attendant le retour du gouverneur qui était absent à ce moment-là. Et le gouverneur alors arriva. Jour après jour, les chrétiens arrêtés étaient conduits au forum pour être interrogés en public. On leur faisait subir de cruelles tortures parce qu'on voulait leur faire dire qu'ils avaient commis toutes sortes de crimes et renier Christ. Épagathe était un chrétien plein de zèle pour Dieu et tout bouillonnant du Saint-Esprit. Il n'avait pas été arrêté et pourtant il prit la défense des accusés. Nous croyons au vrai Dieu et nous ne commettons aucun crime. » Il fut arrêté à son tour. On continuait d'arrêter des chrétiens et des prisonniers étaient affreusement entassés dans des cachots. Beaucoup moururent étouffés et parmi eux, Potin, notre évêque. Il avait plus de 90 ans. Le gouverneur lui avait demandé « Quel Dieu adorez-vous » Potin lui avait répondu « Tu le connaîtras si tu crois en Jésus. » Certains chrétiens, pour échapper à la torture, ont renié le Christ. Et parmi eux, il y eut Biblis, une femme. Le gouverneur l'interrogea et il pensait qu'elle allait se mettre à accuser les chrétiens de toutes sortes de crimes. Mais à ce moment-là, elle retrouva tout son courage et elle se mit à affirmer que les chrétiens n'étaient pas des criminels et qu'elle aussi était chrétienne. Et à partir de là, elle a partagé le sort des autres martyrs. Alexandre était un médecin très connu à Lyon. Debout près du tribunal, il faisait des gestes pour encourager les chrétiens à tenir bon. Et la foule poussa des cris contre lui. Et le gouverneur demanda « Qui es-tu ?» Alexandre répondit « Je suis chrétien. » Et lui fut aussi condamné aux bêtes sauvages. Le dernier jour de la fête, ça c'est une histoire connue, nous sommes allés à Lyon, on est allés en pèlerinage, je me rappelle, avec Nicole, on est allés à Lyon et on est allés dans cet amphithéâtre, on est allés voir, ça s'est passé là. Cette femme Blandine, le dernier jour de la fête, Blandine parut à son tour, elle avait 15 ans, c'était une jeune femme, elle parut à son tour dans l'amphithéâtre, avec Pontique, un jeune garçon de 15 ans. On ne put réussir à leur faire renier leur foi et Blandine encourageait Pontique qui finit par mourir sous les coups. L'histoire nous raconte que cette femme, Blandine, a été attachée à un poteau avec les chrétiens qui étaient dans cette arène. Et les lions, ils lâchaient les lions. Et des chrétiens se faisaient manger, mais pendant les plusieurs jours qui ont suivi, les lions, c'est comme s'ils s'approchaient d'elle, ils la sentaient, ils la reniflaient, puis elle n'avait pas l'air d'avoir de goûter très bon, donc ils l'ont pas touchée. Donc ils en avaient marre, les Romains en ont eu marre parce qu'ils voulaient du spectacle. Alors le dernier jour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont attaché, ils ont pris des taureaux sauvages et puis ils les ont envoyés dans l'arène. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Elle est morte parce que les taureaux sauvages l'ont foncé contre et tout ça. Et elle a pas renié sa foi. Et alors que ce jeune homme de 15 ans qui était à côté d'elle, elle l'encourageait, perds pas ta foi, elle l'encourageait pour pas qu'il perde sa foi jusqu'à ce qu'il meure. Waouh! Le dernier jour de la... ça j'ai lu. Tous ces martyrs ont été de bons imitateurs de Christ. Ils ne voulaient pas que nous leur donnions, c'est encore cette lettre, le titre de martyr. Ils disaient, seul le Christ est le vrai martyr, fidèle et authentique. Et ils nous demandaient instamment de prier pour eux afin qu'ils aient la force de tenir bon jusqu'au bout. Ils n'accusaient personne. Comme Étienne, ils priaient pour leur bourreau. Seigneur, pardonne-leur ce péché. Wow. Pasteur Mathieu, wow, j'aurais aimé que tu nous prêches un message un peu, tu sais, encourageant. Un message qui nous encourage, qui nous fait du bien, c'est plutôt plombant. Sauf que c'est une part de l'histoire, mes amis. C'est des gens qu'on rencontrera quand on arrivera là-haut. J'ai hâte de parler avec eux, j'ai hâte de m'entretenir avec eux. Alors c'est vrai qu'en même temps, ça n'est pas notre réalité aujourd'hui, dans la région de Montréal, ici au Québec. Ce n'est pas notre réalité aujourd'hui. Dieu ne te demande pas de devenir martyr aujourd'hui. Mais lorsque je lis cela, il y a quelque chose qu'ils avaient. Il y a quelque chose d'une foi. Il y a quelque chose d'un amour qui les unissait au milieu de leurs épreuves. Je trouve que cette image qu'on a vue tout à l'heure, si tu peux la remettre, Jean-Étienne, s'il te plaît, je trouve que cette image, elle est vraiment éloquente. Il y a quelque chose. Regardez. Il y a des fauves qui arrivent. Il y a quelque chose qui les tenait ensemble. Il y a quelque chose qui les unissait. Il y a quelque chose qu'ils priaient ensemble alors qu'ils étaient au milieu de cette horreur. Il y a quelque chose de surnaturel qui est là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aux yeux humains. Ce n'est pas possible à la nature humaine de se tenir en paix au milieu de tout ça. Il y a quelque chose qu'ils avaient que j'aimerais avoir aussi. Il se passait quelque chose entre les chrétiens de puissants qu'on a besoin de retrouver dans notre monde individualiste, nombriliste. Il y a quelque chose qu'on a besoin de retrouver, de regagner, de conquérir à nouveau. parce que c'est un choix, c'est une décision, ça part d'un désir. Et c'est ma prière ce matin, que Dieu, par son Esprit Saint, ce matin, et pour cette année 2019, implante un désir dans nos cœurs, de regagner, de retrouver, de reconquérir quelque chose, les uns avec les autres, qu'on a pu perdre dans ce monde occidental individualiste, peut-être, jusque dans l'Église. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces chrétiens de l'époque. Il y a quelque chose qui les unissait, que nous avons besoin de retrouver. Une unité, un désir de vivre des choses ensemble, d'avancer main dans la main avec le frère ou la sœur qui est à côté de moi. Alors qu'on grandit à Nouvelle-Vie, à Nouvelle-Vie-la-Prairie, alors qu'on est en croissance à Nouvelle-Vie-la-Prairie, on pourrait juste continuer à s'occuper de nos petites affaires, les uns les autres, chacun de notre côté, où on pourrait choisir de dire, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au milieu de nous, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans l'Église, il y a quelque chose qui est en train de se passer au milieu de nous. Je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Je veux pas, parce que, lorsque Dieu répand son esprit, il y a automatiquement que dans un véritable réveil, il y a véritablement un lien qui se tisse entre les frères et sœurs, entre les chrétiens, quelque chose de plus qui nous sort de notre individualisme, quelque chose de l'amour de Dieu, quelque chose de l'amour de Dieu qui descend au milieu de nous et qui fait qu'on s'aime plus les uns les autres, qu'on se soucie plus les uns des autres, que les préoccupations, les soucis, les défis, la tempête de mon frère ou de ma sœur me concernent aussi. Acte 3, verset 1. C'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples après le départ de Jésus. Malgré les persécutions qui avaient commencé à prendre place. Regardez avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Waouh, quel miracle! Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme qu'il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Waouh, quelle histoire extraordinaire. Pierre et Jean, qui pourtant étaient si différents, mais ils ne pouvaient plus se séparer. Eux qui étaient si différents, qui auraient pu se trouver tellement de différences pour que leur chemin se sépare, puis que chacun fasse sa vie, pourtant ils ont choisi de s'unir et de ne pas se séparer. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Le Saint-Esprit, c'est inévitable, c'est pas possible autrement. Le Saint-Esprit avait fait une œuvre de transformation en eux. Rappelez-vous lorsqu'ils couraient au tombeau. Lorsqu'ils ont couru au tombeau pour voir si le tombeau était vide, lorsqu'ils ont entendu les femmes. Rappelez-vous, était-il aussi uni que ça? Il y en avait un qui courait plus vite que l'autre. Il y en avait un qui a dit, moi, Pierre était un peu moins en forme, là. Faisait-il un peu d'embonpoint? Avait-il mangé un peu trop de poisson? Est-ce qu'il avait quelques défis pour quoi? Était-il plus petit? Je ne sais pas. En tout cas, Jean avait l'air d'être un poil plus athlétique. Et il a tracé la route, là. C'est moi le premier qu'il va aller voir. C'est moi le premier, puis il va arriver là. Il est arrivé devant le tombeau, et Pierre est arrivé après. Manque d'unité. Ils n'étaient pas ensemble, chacun pour soi, à ce moment-là. Et maintenant, Ils se retrouvent. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose d'une œuvre du Saint-Esprit qui s'est passé. Parce qu'ils se retrouvent dans les maisons avec les autres chrétiens. Ils se réunissent ensemble pour partager, pour prier. Rappelez-vous la période où Jésus est mort, il est ressuscité. La période qui a suivi où il a apparu à plusieurs fois à ses disciples. Combien de fois il rentre dans il leur apparaît dans la maison. Ils sont là, ils sont rassemblés, ils se tiennent ensemble. Il y a quelque chose qui les a unis. Il y a une œuvre qui s'est passée surnaturelle. Ils se retrouvent dans les maisons, ils se réunissent ensemble, ils partagent. Ils prient, ils partagent leurs craintes, ils partagent leurs défis, ils partagent leurs tempêtes, ils partagent leurs doutes. Ils sont ensemble pour partager. Et ce jour-là, Pierre et Jean, ensemble unis, ils marchent ensemble pour aller prier dans la maison de Dieu. Viens, je vais aller te chercher, on va aller ensemble à l'église. T'as pas d'auto? Je vais aller te chercher. Je vais aller te chercher, on va y aller ensemble. On va aller ensemble à la maison de Dieu. C'est dimanche, demain. Est-ce que je pourrais faire un téléphone de 3 personnes que j'ai vues, que j'ai pas vues ces derniers dimanches? C'est vrai, lui, je l'ai pas vu. Je vais essayer de les appeler, comment ça va, voir si on peut se retrouver à l'église, à la maison de Dieu ensemble, se soucier les uns des autres. C'est ça qui avait commencé à prendre place par cette œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans la vie de Pierre, de Jean et des disciples. Et laissez-moi vous dire ce matin, je rêve de voir des chrétiens partout à Nouvelle-Ville, La Prairie, se connecter ensemble, de plus en plus, se soutenir, se porter, s'entraider, sortir de notre individualisme et imaginer que notre famille chrétienne est appelée à déborder, même au-delà du dimanche matin. Et c'est pour ça que nous croyons et que nous investissons dans nos groupes maisons, dans les maisons. C'est tellement important. C'est tellement primordial, les groupes partagent. C'est tellement important, mes amis. Nous en avons besoin. On ne peut pas juste se contenter du dimanche matin. On a besoin de trouver, on a besoin de retrouver, on a besoin de regagner, on a besoin de conquérir à nouveau quelque chose qui va nous rapprocher les uns des autres. Et c'est pour ça que nous croyons au groupe, c'est pour ça que nous croyons au rassemblement qui se rassemble pendant la semaine aussi, au milieu de nos semaines où on travaille, on a nos jobs, on a des défis familiaux, on a nos défis de couple, on a des défis avec nos enfants, on a nos défis professionnels. Au milieu de tout ça, de pouvoir se retrouver ensemble, c'est si précieux, c'est si important, c'est si nécessaire. On en a besoin. On en a besoin. Imaginez-vous, on est passé, il y a quelques mois en arrière, de 4-5 groupes maisons, ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie, en ce début 2019, à 11 groupes maisons à Nouvelle-Ville-la-Prairie. J'aime ça! Un travail extraordinaire de pasteur Hélène qui est ici au fond. Pasteur Hélène fait un travail fabuleux. Savez-vous quoi? Je sais qu'elle n'aime pas quand je dis ça et je sais qu'elle n'aimera pas que je révèle cela. Mais cette semaine, j'étais ici. Ça m'arrive parfois d'avoir des entretiens en soirée. Des personnes travaillent. Je peux juste les rencontrer en soirée. Alors cette semaine, un soir, j'étais là pour rencontrer quelqu'un de l'église, suivre un frère de l'église. Et je suis là au bureau et en partant. C'est plutôt tard et je regarde, c'est encore allumé dans le couloir. Je veux éteindre, je veux tout partir, je veux démarrer le code de sécurité de l'église en partant. Puis je regarde dans le couloir, je vois c'est encore allumé. Je vais jeter un œil. C'était pasteur Alain qui était là dans son bureau, puis elle faisait des téléphones aux responsables de groupe maison. Elle veut s'assurer comment ça allait. Elle voulait encourager. Waouh, il y a un travail extraordinaire qui se fait parce que nous croyons et on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. Oui. Parce que nous croyons que ça se passe aussi dans les maisons. C'est super de se réunir une fois par semaine ici le dimanche matin et on va continuer à le faire et c'est bon de le vivre. Mais notre réalité, c'est nos maisons. Notre réalité quotidienne, c'est chez nous à la maison. Et c'est aussi bon, c'est aussi important de pouvoir se rencontrer dans nos réalités quotidiennes, dans nos maisons, pour partager, pour prier ensemble, pour porter les fardeaux les uns des autres. C'est aussi important de le faire. Je crois que nous serons appelés de plus en plus à nous connecter les uns les autres. Et j'aimerais vous encourager ce matin à rejoindre un groupe maison. Si vous ne l'avez pas déjà fait, j'aimerais vous encourager à le faire. Peut-être rejoindre comme participant à un groupe maison qui existe déjà dans un de nos 11 groupes maison. Mais s'il y a un mouvement, ce que j'espère de tout mon cœur, un mouvement de gens qui disent « on va participer, il va falloir qu'on en crée d'autres ». Donc peut-être parmi vous, il y en a certains qui disent « moi je suis prêt à ouvrir ma maison, pas de problème, venez chez nous à la maison ». Il y en a peut-être d'autres qui disent « moi je suis prêt à animer, j'aimerais ça être animateur, on a des formations pour ça, on aimerait vous encadrer pour pouvoir le faire, pour pouvoir vivre des moments dans les maisons, dans la semaine. C'est ça l'Église aussi, c'est surtout ça l'Église. Alors inscrivez-vous, s'il vous plaît, mettez ça dans votre cœur, laissez Dieu faire peser ça sur votre cœur et allez vous inscrire. On a des kiosques pour les groupes maisons qui sont là spécialement pour les inscriptions aujourd'hui. Imaginez rejoindre un groupe maison. Je crois que nous serons appelés de plus en plus dans les temps troublés dans lesquels nous vivons, de plus en plus à nous connecter les uns avec les autres. N'attendons pas d'être dans des situations désespérées pour nous connecter avec des frères et sœurs qui pourront être des soutiens pour nous. À créer des connexions divines afin que notre foi au contact de celle de l'autre soit fortifiée, soit solide, soit unie. Alors, j'aimerais quelques instants, je vais faire un appel, puis je vais demander à ceux qui sont responsables de nos 11 groupes maison, ceux qui sont là, il y en a peut-être qui n'ont pas pu être là avec nous ce matin, mais j'aimerais les nommer. Et quand je nomme votre nom, si vous êtes ici, levez-vous et venez ici vers moi sur le stage. Je sais que c'est un peu... On monte sur le spot avec Pasteur Mathieu. Venez, parce que j'aimerais qu'on célèbre le Seigneur ensemble. Et j'aimerais que ce soit comme visuel. J'aimerais que ce soit visuel, que vous veniez ici avec moi et que l'Église nous voit, l'Église vous voit, que ça suscite quelque chose en nous, que ça suscite quelque chose qui nous unisse par son esprit ce matin. Alors, il y a un groupe de 18-25 avec Carl Philippe et Annie-Claude à la prairie. Carl Philippe et Annie-Claude, ils sont magnifiques. Oui, il y a un groupe « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ça, c'est génial. Un groupe « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ce que tu lis dans la parole de Dieu, est-ce que tu le comprends ? Avec Omer et Anna Gomez à Saint-Jean, si vous êtes là, venez. Il y a un groupe « Parents-enfants » avec Bertin et Patricia Mouyamadi à Brossard. Venez, levez-vous, rejoignez-nous si vous êtes là. Il y a un groupe « Parents-enfants » avec Mario et Stacy à Saint-Jean aussi. Il y a un groupe « Partage » en anglais avec Bernard Arsenault à la prairie, via mon Bernard. Il y a un groupe partage avec Taline Kfouri aussi à la prairie. Il y a un groupe partage avec Vincent et Giuseppe à Saint-Constant. Venez si vous êtes là. Il y a un groupe, c'est serré, hein, c'est serré sur stage. C'est serré, c'est ça, on est tissé serré, c'est pour ça. Il y a un groupe partage avec Pasteur Daniel Drisdel qui n'est pas ici ce matin, mais Monsieur et Madame Lacasse, s'il vous plaît, venez ici, vous allez représenter votre groupe à Delson. Il y a un groupe partage avec Jean-Denis et Carline aussi, si vous êtes ici, approchez-vous. Il y a un groupe partage pour hommes avec Guy Lacroix à Saint-Basile. Viens ici, Guy. Et il y a un groupe partage pour femmes avec Lise Ouellette et Louise Roger à Longueuil, approchez-vous. Le stage n'est pas assez grand pour les accueillir, c'est magnifique. Waouh! Je vais m'adresser à eux quelques instants. Fermez vos oreilles, faites autre chose en attendant, ce ne sera pas long. J'aimerais vous dire merci. C'est extraordinaire, je suis tellement fier de vous qu'on soit passé de 4-5 groupes il y a quelques mois en arrière à 11 groupes aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose. Et moi, je m'attends à Dieu dans vos groupes maisons et attendez-vous à Dieu dans vos groupes maisons. Dieu va accomplir des choses à travers ces connexions divines que Dieu va faire, à travers les gens que Dieu va amener dans vos groupes maisons, à travers ce cœur d'amour que Dieu vous a donné. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire des choses précieuses à travers vos vies et je vous bénis. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble, s'il vous plaît, tout le monde? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, étendre nos mains, s'il vous plaît? Je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux quelques instants. Seigneur, on te remercie pour chacun et chacune qui est ici, qui a choisi de s'engager, de se donner pour ouvrir leur maison, pour animer un groupe, pour que d'autres puissent venir découvrir l'amour fraternel que seul toi peux créer par ton esprit. On ne parle pas d'une amitié humaine, on parle d'un amour surnaturel. Et je prie que tu les remplisses de ton esprit maintenant. Je prie que tu les équipes de ton esprit pour pouvoir entourer, pour pouvoir conseiller ceux que tu vas leur amener, qui auront peut-être des difficultés, qui seront peut-être dans des saisons où ils auront des doutes, ils auront des questions difficiles, qu'ils auront des phases de vie pas faciles, qu'ils seront dans des tristesses profondes. Je prie que tu les équipes, que tu les fasses déborder de ton esprit afin qu'ils puissent faire couler, que tu puisses faire couler à travers leur vie sur ceux que tu vas emmener dans leur maison avec eux, Seigneur. Et on prie et on croit ensemble, Seigneur, que tu vas nous unir, que tu vas ouvrir un ciel encore plus grand au-dessus de Nouvelle Ville à Prairie, parce que des hommes et des femmes auront choisi de se lever et de s'ouvrir pour que d'autres viennent dans ces maisons et soient touchés par toi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci encore. Merci encore. Merci. C'est magnifique. Je n'ai pas terminé mon message. Restez avec moi. Alléluia. En tant que pasteur, je croise chaque semaine des personnes au milieu de nous qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Et je les aide, mais je ne peux pas aider le Québec au complet. Ce n'est pas possible, à moins tout seul. Et nous avons besoin de prendre soin les uns des autres. Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres et de sortir de cette mentalité pour certains. De sortir de cette mentalité que si ce n'est pas le pasteur qui me rencontre, si ce n'est pas le pasteur qui prie pour moi, si ce n'est pas le pasteur qui pose ses mains sur moi, je passe à côté de quelque chose, il va manquer quelque chose, ça ne va pas se passer, Dieu ne répondra pas à ma prière. Savez-vous quoi? Il n'y a rien de magique dans mes mains, c'est les mêmes chrétiennes. Rien du tout. Dieu veut et est capable d'utiliser chacun et chacune d'entre nous, là où tu en es dans ta foi, simplement avec un désir de dire je veux choisir ce matin d'aimer mon frère, ma sœur. Je vais choisir ce matin de m'ouvrir et d'aimer mon frère, ma sœur, de me tourner vers les uns et les autres et de me tenir disponible de comment est-ce que je pourrais aider, comment je pourrais aimer mieux, comment je pourrais aimer plus mon frère, ma sœur, ici dans l'église. Alléluia! Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres, de prendre plus soin les uns des autres. Et j'oserais dire, nous avons besoin de prendre mieux soin les uns des autres. Oui, oui. Pas pour dire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est rien. Bien au contraire, je sais que ça se passe déjà. Et je sais que ça grandit au milieu de nous. Mais j'aimerais vous dire, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus de soutenir les uns les autres. Et je le dis même prophétiquement, les amis, parce que je sais qu'on s'en va vers des temps. Je ne suis pas un grand prophète, je ne peux pas te dire quand, mais nous savons que nous allons dans des temps qui sont troublés, ils le sont déjà, et nous n'allons pas aller dans des temps qui seront forcément plus faciles avec les années qui vont passer. Et si à ce moment-là, on n'a pas déjà enclenché, commencé un mouvement où on se soutient les uns les autres, alors quand le vent de la tempête soufflera encore et que lorsqu'il soufflera encore plus, ce sera difficile de se connecter les uns les autres si on n'a pas déjà enclenché quelque chose maintenant. Je prie que le Saint-Esprit nous réveille. Je prie que le Saint-Esprit réveille et excite son amour dans nos vies, les uns pour les autres, avec un soutien et un désir, les uns pour les autres. Alléluia. Peut-être que le Seigneur aimerait t'utiliser pour aider quelqu'un à travers ton aide, ton témoignage, à travers ton amour en action. Et peut-être que le Seigneur aimerait utiliser d'autres chrétiens pour t'aider toi là où tu en es aujourd'hui. Pour ça, il faut se connecter. Il faut choisir de se connecter les uns avec les autres. Des connexions de compassion divine les uns pour les autres. Alors tu me diras, oui, mais moi je ne connais pas tout le monde, j'ose pas. Ou encore, ce n'est pas mon style d'aller vers les autres. Je suis plutôt sur la retenue, moi, je suis plutôt un introverti. Ou alors, ça ne fait pas longtemps que je suis ici. L'isolement n'a jamais été une solution de résolution de problèmes. Momentanément, parfois ça fait du bien de s'isoler un petit peu dans un moment de crise. Je ne parle pas de ça. Mais l'isolement, à plus long terme, n'a jamais été une solution de résolution de problèmes. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir, pour progresser, pour apprendre à aimer malgré tout, pour apprendre à pardonner. Si tu ne choisis pas de te connecter avec tes frères et sœurs chrétiens, tu n'auras jamais l'occasion de pardonner. Parce que oui, on va se décevoir parfois. Oui. C'est une occasion extraordinaire de pouvoir découvrir ce que c'est que le pardon. Apprendre à se battre ensemble. Apprendre à porter les fardeaux les uns des autres. La richesse de s'unir, de se soucier les uns des autres est absolument phénoménale. Et on passe à côté trop souvent de ça dans notre individualisme moderne. Les chrétiens de l'époque ne se posaient pas la question si c'était leur style d'aller vers les frères et sœurs en Christ. C'était une nécessité. Et la richesse et la puissance de cette unité a permis à ces chrétiens de se tenir ensemble, de se fortifier dans la foi ensemble et de traverser les vallées les plus sombres de ces persécutions atroces. Peut-être que toi-même, en ce moment, tu passes par une vallée. Laisse-moi te dire que tu as besoin alors de te connecter au corps de Christ, aux chrétiens. Rejoins un groupe maison. Partage avec tes frères et sœurs tes fardeaux. Et tu verras le baume bienfaisant et guérissant que Dieu mettra sur tes blessures à travers les prières et la bienveillance des frères et sœurs, la chaleur de la famille. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean n'étaient pas du tout du même tempérament. Et pourtant, lorsqu'on lit ce texte, on voit qu'il y a une sorte d'unité divine. Ce n'est pas humain, c'est quelque chose de surnaturel, une unité divine qui fait qu'ils vont ensemble sur le chemin de leur vie. Ils marchent ensemble, unis, main dans la main, malgré leurs différences. Quel exemple pour nous ! Quel exemple pour toi et moi, le point central et le point central de ce rapprochement, de cette unité entre Pierre et Jean, c'était Jésus lui-même. C'était Jésus lui-même, ce Jésus qu'ils avaient côtoyé durant 3 ans, mais qui n'était plus avec eux maintenant. Et face à ce désarroi, Jésus n'est plus avec nous. Au lieu de chacun repartir à son ancienne vie ou à son propre chemin, ils ont choisi de s'unir, de rester ensemble, de se soutenir, de s'entraider, de s'aimer, poussés par le Saint-Esprit. Ils vont dire à ce boiteux, c'est surprenant, pourtant c'est Pierre qui parle. Il devrait dire, regarde-moi quelques instants. Non, il dit, regarde-nous. Avez-vous remarqué ça? On lirait le texte, acte 3. Pierre s'exprime, mais il s'exprime comme s'ils étaient qu'un ensemble avec Jean. Regarde-nous, va-t-il dire. Pourtant, il n'y a que lui qui parle. Il aurait pu se la jouer solitaire encore une fois. Regarde-moi, je vais te parler, j'ai un truc à te dire. Jean est en train de prier derrière moi, mais regarde-moi là, c'est moi, c'est ici que ça se passe. Regarde ici, l'attaque, c'est ici que ça se passe. Non, il va dire, regarde-nous. C'est moi qui parle, mais je ne suis pas tout seul. Mon ami, mon frère, il est là avec moi, on est comme les deux doigts de la main, on est ensemble. Puisque je te dis, je le dis aussi en son nom, à lui. C'est comme si sa voix parlait aussi à travers la mienne. C'est comme si je m'exprimais pour nous deux. On est là ensemble, regarde-nous. Cette unité, elle réjouit, elle plaît au cœur de Dieu. Ça réjouit fortement et puissamment son cœur. Ça ouvre un ciel, une faveur sur ceux qui choisissent ce chemin-là et qui s'y accrochent. Malgré peut-être, oui, les déceptions, malgré peut-être, oui, les fois où je dois choisir de pardonner parce que hop, entre frères et sœurs, hop, dans l'église. Mais il y a un ciel, il y a un principe spirituel, il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui choisissent malgré tout de choisir l'unité de l'épouse, l'unité de l'église, l'unité des chrétiens. Je plaide ce matin parce qu'on y passe trop souvent à côté. On passe trop souvent, on perd des bénédictions de notre individualisme moderne. On a besoin que Dieu change notre mentalité. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous aider à changer de mentalité. Et la puissance de Dieu est descendue. Parce qu'il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui choisissent d'être en unité. La puissance de Dieu est descendue sur Pierre et Jean. Alléluia. Et ils vont ensemble voir la puissance de Dieu guérir cet homme boiteux de naissance. À tel point que tout le monde n'en croyait pas, leurs yeux sont tous attroupés autour. C'est lui qu'on voit tous les jours depuis 40 ans, à la belle porte du temple qui fait le monde. C'est lui, regarde, il marche, il saute, il loue Dieu. Waouh, wow. Quel miracle! Ça crée des miracles, l'unité des frères et sœurs, le choix de sacrifier mon égoïsme, mon ego, de choisir de... Non, je l'ouvre, je vais regarder les besoins des autres, je vais voir comment est-ce que à qui je pourrais téléphoner cette semaine, comment je pourrais soutenir quelqu'un cette semaine. Un frère, j'ai vu ce frère, cette sœur qui avait pas l'air d'aller bien à la sortie. Oui, je ne le connais pas si bien que ça, mais je vais quand même aller vers lui, vers elle, lui donner une parole, lui dire Seigneur, je prierai pour toi cette semaine. Qu'on s'entraide, qu'on se soutienne, qu'on a un téléphone. Comment ça va depuis dimanche? Depuis qu'on a prié, c'est encore difficile. Je prie pour toi. Regarde, je prie même pour toi au téléphone. Oh Seigneur, sois avec mon frère, sois avec ma soeur. Des liens divins, ça ouvre un ciel, mes amis. Ça ouvre un ciel sur nos vies. Ça ouvre un ciel sur l'Église. Lorsque des frères et sœurs chrétiens passent du temps ensemble, autour de Jésus, avec Jésus au centre, qu'ils se voient dans leur maison, se soutiennent au milieu de leurs épreuves, il y a une faveur de Dieu qui vient et qui se dépose sur eux, qui vient au milieu d'eux. Et lorsque l'Église au complet se met ensemble, imaginez-vous la puissance. Alléluia. Lorsqu'on avance ensemble dans l'unité, la puissance est multipliée. Et Satan, notre adversaire, le sait bien. Et il cherchera toujours à diviser, à déchirer, à éloigner, parce qu'il sait qu'il y a une puissance qui est là derrière. Et lorsqu'il arrive à influencer, à fortifier notre individualité, il sait qu'il arrive à appauvrir de sa puissance l'épouse, l'Église. Les gens ont pu dans son jeu. Lorsque des chrétiens se regardent de haut, ne se saluent pas, qui ne s'adressent pas à la parole parce qu'ils ne se connaissent pas. Lorsque chacun s'éparpille, que chacun fait ce qui lui semble bon, qu'il y a comme une méfiance alors qui commence à prendre place. Et la confiance et la communion fraternelle font place à la méfiance et même parfois à la médisance alors. Ça laisse accès à l'ennemi. On dit des choses dans le dos des autres. On pense que parce que ça ne se sait pas, parce que c'est fait, c'est dit dans l'ombre, que ça n'aura aucune incidence. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il entend tout ce qui sort de ta bouche. Il entend tout, même si c'est dans l'ombre. Il connaît l'état de chaque cœur. Lorsqu'on se comporte ainsi, ça laisse accès à l'ennemi. Et il y a un ciel qui reste fermé au-dessus de nous. Savez-vous quoi? La grande crainte de Satan, c'est que les chrétiens réalisent qu'ils sont plus puissants que lui lorsqu'ils gardent leur cœur, qu'ils s'unissent et qu'ils s'aiment les uns les autres. Au nom de Jésus, alors ils s'acharnent à diviser. Oui, amen! C'est pour ça qu'ils s'acharnent à diviser, à éparpiller les chrétiens pour réduire leur force, la faveur de Dieu sur leur vie. Ça suffit. Connectons-nous les uns avec les autres. La parole de Dieu dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan. La force de l'Église, notre force, elle est et elle sera toujours dans l'unité qu'on trouve ensemble, tissée, serrée autour de Jésus. Alléluia! Lorsque je lis ce texte et que je m'imagine la scène, que je me mets dans la peau des personnages, il y a quelque chose qu'ils ont découvert que je veux avoir, que je soupire après que l'Église puisse avoir ça. Il y Il y avait une espèce de soutien mutuel, une force dans l'unité, ensemble, unis par l'Esprit de Dieu. Ils étaient capables de surmonter les obstacles de la vie, la tentation permanente qui régnait dans le monde de l'époque et qui règne encore aujourd'hui au milieu de nous. Lorsqu'on s'unit, il y a une protection qui prend place. Regardez ça. Une image vaut mille mots. C'est vrai. Ce petit dessin, Nouvelle Vie La Prairie, regardez-le bien. Parce que c'est nous dans les semaines qui viennent, ça. Regardez-le bien, c'est nous dans les mois qui viennent, ça. C'est vous ensemble. Oh, pasteur, j'ai besoin de vous. C'est vous ensemble. C'est vous ensemble, on aura toujours une équipe pastorale ici pour prendre soin les uns des autres, pour prendre soin des brebis, prendre soin. Mais s'il vous plaît, levez-vous. S'il vous plaît, levons-nous ensemble. C'est ça l'Église. Un ciel qui s'ouvre sur nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que si on s'en va sur ce chemin, il y a une force surnaturelle qui va nous animer et qui va te garder de tomber, de retomber. Il y a une protection qui va être là, qui va être une protection d'amour autour de toi parce que tu seras entouré de chrétiens qui se soutiennent les uns les autres, qui prient les uns pour les autres, qui se soucient les uns des autres, poussés par le Saint-Esprit. Et poussés par le Saint-Esprit, s'aimer les uns les autres. Alléluia. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu ce matin, alléluia. Tu es aimé de Dieu. Bonne nouvelle. Tu es aimé de Dieu. Toute la famille Bléry, on a mis un t-shirt ce matin. Levez-vous, mes petites femmes, levez-vous, regardez. On a mis ce t-shirt-là, la famille Bléry, parce que pour nous rappeler, chacun d'entre vous, tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors, s'il vous plaît, à l'image de notre Dieu que nous aimons, qui a donné son Fils pour nous, choisissons-nous aussi de nous aimer les uns les autres. En pratique, pas juste des paroles, pas juste des chants qu'on chante. En pratique, nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Alors, on va se lever tous ensemble, s'il vous plaît. On va commencer à se prendre les mains. Prenez-vous les mains à travers les allées. Et on va choisir de chanter ce chant ensemble. Sois élevé.